que c'est beau, tu te rends compte?
C'est pas une œuvre d'art.
Si, un site est une œuvre d'art.
L'air est pur, tout est calme, je me détends.
Parce que tu trouves ça calme, toi. Avec tous ces oiseaux à la con, ils trouvent ça calme.
Je ne suis pas un paysan, moi. Je suis un gestionnaire. Vous voulez voir mes 400 états? C'est nickel.
CO2, mon amour.
Et plus une herbe, plus un animal. Yeah! Avec le Xerox 3000. Ah, ça, ça te nettoie tout.
Vous avez déjà fait vos courses dans un supermarché bio? On s'attend à des gens éclatants, le teint vif, et ils ressemblent aux tomates qu'ils achètent.
Avec Denis Chessou.
Tu préfères les bagnoles?
Peut-être! Ils commencent à me taper sur le système, ces oiseaux.
Bonjour à tous, bien ravi de vous retrouver dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 de mon amour, tous les samedis à 14h, j'espère que vous allez bien. Et on va avoir évidemment plein de choses dans ce magazine tout au long de l'année. À la technique, il y a Sacha Trop et Maxime Ingrand, et assisté de Claire Destacan. Cette année, eh bien, c'est Xavier Pessugia qui réalise l'émission, et je n'oublierai pas mon copain Albert Hook. Alors sur ce nouveau générique, bah oui, ça commence en général par une petite humeur, donc heureux de vous retrouver dans ce magazine qui aime la consommation à donf, car sans elle, point de salut. Une émission qui raffole des nouvelles maladies liées à l'environnement qui vont faire avancer la recherche, qui pense que tout le monde doit payer pour la pollution des autres et que la pollution est un excellent truc pour faire monter le PIB. Une émission qui soutient les républicains américains et les Tea Party négationnistes bienfaiteurs du climat. Alors une nouveauté d'ailleurs, CO2 Mon Amour est partenaire de la Fondation Monsanto pour l'homme et la nature et vous fera gagner un bidon de glyphosate à la fin de chaque émission. CO2 pense que l'enfouissement des déchets nucléaires pour quelques milliers, voire millions d'années est excellent pour l'emploi, que la chimie est le meilleur allié de l'agriculture moderne et que l'étalement urbain est une bénédiction. Bon, et puis bien sûr, vous vous en doutez, il n'y a pas assez de supermarchés, il n'y a pas assez de ronds-points, ce sera un de nos combats. Qu'on a aussi bien fait de supprimer l'écotaxe en s'écrasant devant les bonnets rouges, écrasés eux-mêmes par les grandes surfaces. Bon, et puis pour les loups, les lynx, les vautours, allez hop, au peloton d'exécution. Comment ça? Mon réalisateur Xavier Pestudia me dit « Ah, c'est un magazine de nature, d'écologie et d'environnement. Ah, c'est écrit sur le paquet. » Ah bah tout va bien alors. Non, à ce moment-là, c'est absolument tout le contraire. Ne vous inquiétez pas. Mais oui, bien sûr. Alors que s'est-il passé quand même dans le domaine de l'environnement durant vos vacances? Pendant qu'étendu sur le sable des plages, vous redécouvriez la puissance de l'énergie solaire, qu'en fut-il de ce feuilleton, on va dire, carboné, c'est-à-dire de cet amour assez impossible qui unit l'homme et la planète? Eh bien, le président Obama, conscient des dégâts d'origine climatique, a annoncé un plan de réduction des gaz à effet de serre, et donc d'aller évidemment gentiment au charbon, alors pas avec sa pelle et son seau, pas du tout, mais avec des objectifs chiffrés, histoire de faire tousser les républicains comme s'ils étaient atteints de silicose. Pourtant, le plan ne fait qu'entériner une tendance, on va dire, qui est à l'œuvre depuis des années, à savoir qu'aux USA, bah, la part du charbon dans la production d'électricité diminue progressivement, mais là, c'est à croire que les républicains, eux, ne sont pas au courant. Beaucoup plus à l'est. Alors là, peut-être inspiré par l'anniversaire d'Hiroshima, le Japon redémarrait ses réacteurs nucléaires à l'arrêt depuis le désastre de Fukushima. Et ceci, malgré les protestations d'une grande partie de la population. Bon, vous me direz, le nucléaire, ça fait moins de mal, c'est incontestable au climat que le charbon. Mais l'atome, ça vous carbonise, mais c'est pas pareil. Et puis, pour finir, bon, on va s'arrêter aussi sur un autre bon exemple en matière d'énergie fossile, la Chine. Entre deux explosions d'usines ou d'entrepôts qui balancent leur lot de saloperies dans l'air, le pays continue de regarder à l'œil nu, oui, à l'œil nu ce qu'il respire. L'air débile chinois, si vous voulez, c'est un peu comme les grands crus hors d'âge. Il y a à mâcher avant d'avaler. On disait jadis « fume, c'est du belge », on pourrait dire aujourd'hui « hume, c'est du Shanghai ». Et chez nous, ah alors là on n'est pas déçus, je vous le disais, par les ados de la politique. Un verre tout seul, vous le savez, c'est un parti. Deux verres ensemble, c'est une scission. Trois verres ensemble, c'est un schisme. C'est une guerre civile. Mais ce qui est sûr, c'est que quel que soit le nombre de verres, bonjour les dégâts. Alors je tiens à rassurer quand même les élus d'Europe Écologie des Verts, régionaux, départementaux, communaux, parce qu'ils sont tous atterrés et il y en a beaucoup évidemment sur le terrain qui font un bon boulot. Mais ce qu'on a eu, c'était quand même un très très grand moment. On va débuter par cette gentille actualité.
Vous avez une bien curieuse façon de forcer la porte de ma demeure, professeur Abronsius. J'ai eu l'occasion de parcourir votre ouvrage, La Chauve-Souris et ses mystères, Ainsi, vous vous êtes égaré.
Non, en réalité, nous étions partis à la poursuite de... d'un chiroptère.
Tiens. Je croyais que les chauves-souris étaient en hibernation durant les mois d'hiver.
Ah, pas toujours, votre excellence.
Eh oui, pourquoi l'actualité ? Parce que c'est aujourd'hui et demain la 19e nuit de la chauve-souris en France et en Europe. Non, elles ne rongent pas les câbles électriques ou l'isolation de votre grenier. Elles ne sont pas prolifiques, c'est tout le contraire. Leur guano en Europe ne transmet pas de maladie et elles ne s'accrochent pas à vos cheveux. Hein ? Là, stop. Donc, je suis la chauve-souris. Et donc, c'est la 19e, je vous le disais, nuit de la chauve-souris. Bon, je vous accorde que l'université d'été du PS sera peut-être un peu plus couvert médiatiquement. Je tiens à saluer tout de suite Laurent Arthur du Muséum National d'Histoire Naturelle de Bourges, qui a fait un travail absolument formidable. Alors, on a beaucoup de découvertes, mais là je vais saluer Jean-François Noblet, naturaliste, pionnier de la protection et porte-parole de la chauve-souris, parce qu'elle est un peu handicapée hein, pour parler à la chauve-souris. Et Jean-François Noblet, maintenant pour détecter, on va dire, les chauves-souris, vous vous promenez avec une tablette numérique.
Bonjour Denis. Ben voilà, on achète dans le commerce spécialisé une petite tablette qu'on emmène sur le terrain, et puis le soir, quand les chauves-souris commencent à se balader, eh bien on peut écouter les sons des chauves-souris qui sont retransmis à l'oreille humaine, c'est-à-dire qui sont audibles pour l'oreille humaine, ce qui n'est pas le cas puisque c'est d'habitude des ultrasons qu'utilisent les chauves-souris. Et puis on peut voir quasiment les ondes de ces, enfin les cris des chauves-souris apparaître
sur la fameuse tablette.
Précise sur la tablette. Et puis surtout, on a des logiciels qui nous permettent de déterminer les espèces, c'est-à-dire avec les longueurs d'onde ou les fréquences. Eh bien, ça facilite évidemment beaucoup le travail. Alors, ça perd un peu de charme, mais c'est prodigieux tout ce qu'on peut apprendre aujourd'hui sur les chauves-souris.
Alors, rappelez-nous, Jean-François Noblet, aussi, quels sont les bienfaits de cette chauve-souris. On dit qu'elle a des ailes, en fait, pratiquement, c'est une main sans avoir de pouce. Mais quels sont ses bienfaits ?
Ah si, il y a un pouce. Il y a un tout petit pouce. Ah. Il y a 5 doigts, exactement comme un mammifère normal. Et donc, il y a un tout petit pouce avec une griffe au bout, mais qui est minuscule. Alors déjà, ce qu'on peut dire, ces chauves-souris, elles consomment des insectes. Et donc, elles sont extrêmement utiles pour l'agriculture. Aujourd'hui, les bons agriculteurs posent des nichoirs à chauves-souris dans leur verger, dans leur jardin, près de leur serre. Et puis, elles mangent beaucoup de moustiques. Par exemple, certaines chauves-souris, comme le murin de Benton, se nourrissent. Par exemple, un murin de Benton, c'est-à-dire un individu va consommer 60 000 moustiques pendant l'été. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'avec le dérèglement climatique qu'on connaît aujourd'hui, hélas, eh bien, on pense que les moustiques vont remonter en densité, peut-être même avoir des conséquences nuisibles pour la santé humaine, comme le paludisme ou le chikungunya.
Rappelez-nous ce qui s'était passé en Corse en 1930. Là, on savait que la chauve-souris était un auxiliaire pour les gens.
Eh bien, sur la côte, dans les grands marais de Corse, où il y avait multitude de moustiques, eh bien, on avait construit des tours à chauves-souris, comme ça se fait aujourd'hui aux États-Unis. Et nous, en Isère, on a fait la première tour à chauves-souris dans le marais du Bergureuil, pas loin de chez moi, là. Et on attend avec impatience le succès de cette opération.
Jean-François Noblet, vous avez droit à une histoire de chauves-souris, rapidement.
Oh, ben, je vais vous raconter l'histoire d'une petite chauve-souris qui était tombée d'une façade où sa colonie et sa maman vivaient. Et cette chauve-souris n'arrivait pas à remonter dans la colonie. Donc, j'habitais dans un centre de soins à l'époque. On l'a nourrie avec du lait de chat, avec une petite seringue. Et puis, on l'a laissée dans une petite boîte d'allumettes. Là, on l'a coincée dedans avec du coton. Alors, on l'a maintenue au chaud sous une lampe. Et puis, c'est très, très rapidement apprivoisé. C'est des animaux extrêmement intelligents. Aujourd'hui, on pense que les chauves-souris sont plus proches des primates, des singes, que des insectivores auxquels on pensait au départ. Et puis cette chauve-souris, elle a grandi, elle vivait dans ma poche, et puis un jour, je l'ai relâchée parce que c'était sa vie de chauve-souris. Et j'ai un ami scientifique suisse qui, lui, avait apprivoisé une noctule commune, une chauve-souris un peu plus grosse, qui pouvait pas être relâchée parce qu'elle avait des problèmes d'ailes, mais elle arrivait quand même à voler. Alors, il faisait ses cours en fac, et puis avec la chauve-souris dans sa poche de blouse, et puis de temps en temps, pour illustrer un cours, il faisait un petit cri, la chauve-souris sortait, faisait un tour au-dessus des élèves, et elle revenait se poser dans la poche qui était bien chaude, et c'était un endroit pour elle extrêmement favorable.
Merci beaucoup, Jean-François Noblet. Donc, je vous vous renvoie le 29 et le 30 août, donc aujourd'hui et demain, à cette 19e nuit internationale de la chauve-souris. Vous aurez toutes les informations sur le site de franceinter.fr, CO2, mon amour. Merci Jean-François, à bientôt.
Merci Denis, au revoir.
Ah, ça c'est délicieux. Dédié à toutes les femmes qui aiment cette chanson, plus une. Till you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes. You still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true. I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. Ah bah oui, si vous fondez pas, nous on fond avec ça. Mais Robbie Williams, c'est pas possible, on fond, et ça nous fait absolument un bien fou. Vous êtes bien sur France Inter, CO2 Mon Amour, votre magazine de nature et d'environnement, et je vais vous emmener respirer du côté de Val-Sainte, je vais vous en dire plus, dans les Alpes de Haute-Provence.
Vous attaquez bien le sol avec votre talon, vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. On marche quoi.
Du grand air et pur si possible.
Ce promontoire rocheux a été habité par les hommes parce qu'il y a ici un petit peu des phénomènes de la nature, notamment ces boulinettes, hein, une formation géologique d'un rocher de grès daté de 110 millions d'années, ouais. À l'intérieur de laquelle s'est formé des noyaux durs, des nodules, comme des D'accord. boules. Et ces boules sortent du ventre de la terre, d'où les premières croyances d'une terre féconde et qui voilà. pond des œufs.
Ah, il y a aussi d'autres visiteurs du soir ici.
Voilà, il y a ceux qui sont la journée, puis ceux qui vivent la nuit. Il y a du monde qui vit la nuit ici, les oiseaux, les insectes. Et puis, on a un animal très particulier qui s'appelle le blaireau. Alors, l'histoire, c'est qu'il y a quelques années, le jardin est quand même clôturé parce qu'il faut évidemment éviter l'intrusion d'animaux qui viendraient détruire le jardin. Et on a retrouvé un trou dans le grillage. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit salvette, on rebouche le trou. Mmh. Mais il s'obstine, il veut toujours passer à cet endroit-là. Et on découvre que cet animal, il creuse dans le jardin. Et après petite recherche, on comprend que c'est certainement un blaireau qui vient creuser. Et en fait, il creuse parce qu'il cherche la nourriture. Et il se nourrit de vers. Et notamment, il se nourrit toujours de vers de hanneton et de vers de cétoine, qui sont deux insectes qui font pas forcément toujours du bien à certaines plantes. Il est devenu un très bon régulateur. Donc on le laisse, on rebouche les trous de temps en temps. Mais il fait son travail la nuit de manger les vers pour pas qu'il y ait un déséquilibre.
Notre premier bol d'air. Nous allons dans ce très beau département des Alpes de Haute-Provence rejoindre Jean-Yves Ménien qui est à Val-Sainte. Alors c'est un très beau jardin, vous avez une très belle abbaye. On est du côté de Simiane-la-Rotonde. Si vous connaissez Simiane, c'est beau comme tout. On a quitté Manosque et la Durance, donc le collinaire. On a la montagne de Lure qui n'est pas loin. Je retire la petite abeille qui est arrivée dans ma bouche. On est à peu près à 600 mètres d'altitude et là, vous avez une abbaye cistercienne de toute beauté et le jardin. Ce jardin remarquable avec plus de 500 variétés de roses avec un parcours chronologique. Et puis un homme qui travaille bien sûr avec des méthodes naturelles, c'est très intéressant. Il va nous en parler avec des huiles essentielles. Donc avec Jean-Yves Ménien, que l'on retrouve d'ailleurs sur France Bleu Dromardèche aussi et Vaucluse. Un homme de méthode naturelle, nous promenons dans ce jardin de Val-Sainte avec Jean-Yves Ménien.
Il y a deux choses. D'abord, un, c'était avec mon passé horticole, j'ai voulu arrêter tout usage chimique parce que, comme on dit, j'en ai soupé. Ouais. Et malheureusement, dans ma jeunesse et dans mes entreprises où j'ai travaillé, il était dans un point de vue purement égoïste au départ, plus question que je m'empoisonne. Ouais. Et ensuite, j'ai appris à jardiner sans et à trouver d'autres plaisirs, bien plus de plaisirs, à découvrir voilà, le potentiel des plantes. Donc, je suis arrivé dans une région où on fait des plantes aromatiques, des huiles essentielles. Donc, j'ai découvert le pouvoir des plantes au service des plantes. Et ça, c'est extraordinaire. Ouais. Et le but était ici d'avoir un jardin écologique où les équilibres se font. Donc, j'ai vraiment cherché à créer une biodiversité très vaste en gardant les plantes sauvages qui, bien sûr, déjà sont là et je les conserve. On va découvrir des pieds d'absinthe à droite à gauche, des vipérines, des achillées, tout un tas de choses qui poussent spontanément. Et on les conserve, elles se marient très très bien avec nos plantes ornementales. Et puis, on a créé un jardin avec des pépiniéristes. On a en France quelques fous de plantes, quelques passionnés qui ont créé des pépinières avec des plantes de zones désertiques. Et il y a un vrai intérêt pour ces jardins du futur, qui m'a surpris moi-même le premier. Après, c'est une autre façon de jardiner.
Ouais, Jean-Yves, c'est assez étonnant parce que nous avons un chêne alpiniste.
Oui, complètement. Alors, c'est le chêne blanc hein, qui est l'arbre le plus commun ici, qui garnit toutes nos forêts. Mais celui-là est venu s'implanter dans le rocher. Et on peut imaginer, quand on voit sa forme, qu'il a lutté avec le temps. Hein, ouais, et ouais. Certainement que le vent, peut-être les hommes, lui ont coupé souvent la tête. Et ce petit gland de chêne, il y a plus de 300 ans, a glissé sa racine dans une faille du rocher. On voit la racine principale. Ouais. Il s'est enfoncé. Il faut savoir qu'ici, les spéléologues ont trouvé des racines de chêne à 50 mètres de profondeur. Donc, l'arbre va très loin pour chercher l'eau là où elle est. Et dans ce rocher de grès, il y a des failles où circulent des petits filets d'eau. Mais pour certains arbres, quand ils l'ont trouvé, c'est l'aubaine.
Bingo. Alors, ça donne des jardins, bon, je sais pas, là, tous les fous de rosiers qui nous écoutent, d'orchidées, etc. Et tout. Bon, là, c'est, on va trouver des formes de roses, peut-être aussi même.
Alors, il y a quelques rosiers qui ont été un peu mis à l'essai, notamment un rosier qui s'appelle le rosier du désert, Rosa nitida, qui vient de désert américain. Ouais. On a des plantes qui viennent beaucoup de la zone méditerranéenne, avec aussi toute la partie Afrique du Nord. On va trouver beaucoup de plantes d'Iran, Turquie, Libye, mais aussi bien sûr l'Espagne, la Grèce. Et on a quelques plantes du continent américain. Alors soit l'Amérique du Nord, soit les déserts californiens par exemple. Alors que ici, la condition, c'est quand même de résister au froid, puisque nos hivers ici, en Haute-Provence, c'est moins 15 degrés. Donc, l'enjeu avec les pépiniéristes avec qui j'ai travaillé, c'était quand même de sélectionner des plantes qui allaient révéler une résistance au froid. Les communes de nos régions sont face à un très grand problème.
Ça intéresse l'élu, ça va coûter évidemment moins cher, et si on peut faire du joli et du moins cher avec moins d'entretien, c'est très bien.
Voilà, parce que ce sont des plantes d'abord qui ne demandent pas d'eau, mais en plus ce sont des plantes qui sont d'une totale résistance sont des plantes qui ne connaissent ni les problèmes d'insectes et de maladies, c'est incroyable, c'est des plantes qui ont tellement développé de stratégies dans des milieux hostiles, qu'elles sont, alors c'est des plantes qui n'ont pas besoin d'engrais, et ce sont des plantes qui ont tellement de caractère, de parfum. Moi, j'ai plus de plaisir aujourd'hui à travailler dans mon jardin sec qu'à travailler avec les roses parfumées.
Oh, mais que voilà un beau pierre de ronsard. Sourire d'orchidée.
Ah ouais. C'est mon préféré.
Pas mal. Hein.
Plutôt rose simple. Près des roses simples. Voilà. D'ailleurs, on va là tout droit vers la voie des roses. On a fait de très belles calades en pierre, méthode traditionnelle, c'est-à-dire pierre posée sur un mélange sable chaud à sec. Dans la nature, des premiers rosiers, on va dire un peu anormal n'aurait pas dû survivre si l'homme n'avait pas mis sa main là à vouloir absolument faire une bouture de ce rosier qui ressemblait pas à un rosier sauvage. Parce que la nature, elle élimine. Si tu fais un hybride comme ça dans la nature, les graines ne pouvant pas se ressemer, ils devraient disparaître. Ouais. En plus, vraiment, le rosier, c'est que ça remonte aux Grecs, aux Égyptiens, puisque le rosier de Damas, hein, qui est, on va dire, ce premier rosier cultivé par l'homme, puisqu'on a que des traces d'un rosier qui aurait été cultivé, mais jamais à l'état sauvage, qui a été découvert et qui a traversé le temps. Et bien ce rosier-là, qui est un rosier qui n'a rien à voir avec les caractéristiques botaniques du rosier, qui sont d'avoir des fleurs à 5 pétales. Rosa Damascena, il en a fait quelques centaines de pétales. Et Rosa Damascena a développé un parfum puissant qu'aucun rosier sauvage n'a. Ça n'existe pas. Donc d'où vient ce rosier? C'est le grand mystère de la rose. La rose commence son histoire avec un grand mystère.
Alors, on va juste rappeler que du Moyen-Âge, je crois, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, vous avez comme des centaines de roses qui vont apparaître.
Voilà, c'est ça. Au début, c'est quelques centaines de roses. Et puis après, c'est quelques personnages, hein, comme par exemple l'impératrice Joséphine, qui exigeait beaucoup d'argent pour ses jardins et qui demandait à ses jardiniers de lui ramener des nouvelles roses quasiment tous les matins. Donc, les pauvres garçons, eh bien, ils semaient des graines et des graines et des graines de roses. Et puis, dès qu'il en sortait une qui ressemblait à quelque chose de différent, allez hop, on donnait un nom. C'était les premiers rosiers galliques. Hein, donc c'est vraiment né en France, cette histoire de la rose, il faut quand même être un peu pas très chauvin. Et les Anglais ont voulu faire pareil, bien évidemment, et puis après les Hollandais, et derrière, les voyages ont ramené des rosiers d'autres continents, et on va dire surtout d'Asie, et c'est vraiment la période de ces rosiers d'Orient qui va faire exploser l'histoire de la rose, surtout qu'on va découvrir ce que les Chinois faisaient depuis le XIIe siècle, que l'on peut hybrider soi-même, c'est-à-dire plutôt que de laisser faire le vent et les abeilles, eh bien, c'est l'homme qui va décider que le pollen de cette rose, on va aller le poser sur le pistil de cette autre rose. Donc, on va faire des mariages, et de ces mariages vont naître des naissances. Mais c'est résumé, c'est un long travail d'obstination, parce que ça marche pas du premier coup.
Et alors, ce que vous faites, vous, aujourd'hui, vous aidez, en fait, ces roses, mais aussi d'autres plantes, à renforcer leur défense immunitaire, comme on le fait, nous, pour notre corps. Et donc, avec ces huiles essentielles, vous essayez de renforcer ces roses.
Voilà, parce que l'hybridation a rendu les rosiers beaucoup plus fragiles, à de nombreuses maladies, surtout. Donc, on s'est lancé dans des expérimentations. Ils m'ont simplement expliqué qu'on ne peut pas mélanger une huile essentielle dans l'eau. Donc, on a fait un petit peu de cuisine. On a fait une base solubilisante avec une base végétale, de l'huile végétale et du savon végétal. C'est vraiment tout simple à faire. Et j'ai commencé à pulvériser ma sarriette, et puis ensuite le thym, et puis ensuite l'orange, le citron, l'origan, j'en ai essayé plein.
Donc vous avez affiné ça sur les maladies des plantes traditionnelles, quoi.
Voilà. Alors, d'abord sur le rosier, puisque c'était mon axe de mon besoin principal. Et aujourd'hui, c'est sur les tomates, c'est sur tout un tas d'autres choses. Et avec le temps, j'ai fait d'autres rencontres, notamment d'un monsieur qui s'appelle Éric Petiot, qui est un ingénieur biologiste qui a beaucoup travaillé sur l'usage des plantes, les purins d'ortie et autres, qui s'est lui aussi tourné vers les huiles essentielles. Il a d'ailleurs sorti un ouvrage là-dessus, et on a pu aller plus loin encore dans l'expérience, en se rendant compte que ces huiles essentielles ont aussi un effet répulsif sur les insectes, qui peut être très intéressant dans certains cas. Moi, je les utilise pas dans le jardin, parce que j'ai réussi à créer un équilibre au niveau des insectes qui ne justifie pas d'intervenir, mais il est évident que lorsqu'on est sur des cultures fruitières ou légumières, où c'est des fois un peu plus compliqué, le recours à ces huiles essentielles qui ont vraiment un effet répulsif, c'est-à-dire non biocide. Pour moi, il était important que ces pulvérisations soient non biocides. On n'est que sur un effet régulateur.
Il n'y a pas le mot « cide », c'est-à-dire « tuer ».
Donc, si je peux protéger sous un effet de halo, puisque ces huiles essentielles agissent par un effet qui s'appelle la diathermie. La diathermie, c'est qu'il se crée une onde lumineuse autour de la plante, puisque l'huile essentielle prend une forme gazeuse. Et cette onde lumineuse qui ne nous est pas perceptible à nous, elle l'est fortement pour les insectes, et ça crée, on va dire, un effet répulsif.
Ah, qu'est-ce que vous soignez? Je ne sais pas, l'oïdium, le mildiou,
L'oïdium, le mildiou, les taches noires. Donc on est sur des actions préventives, même s'il y a des rosiers qui n'ont pas besoin parce qu'ils ont leur auto-résistance. Mais notamment, les tomates, les choses comme ça, se protègent très bien avec les huiles essentielles. Et on est sur quelque chose de 100% biodégradable. On travaille sur des très petites doses. D'ailleurs, c'est l'effet petite dose qui est aussi efficace. Hein, c'est le principe homéopathique.
Alors là,
on a des vieux oliviers. qui date de l'époque monastique. Hein. On est vraiment à la limite de la culture de l'olivier ici, parce que 600 mètres...
Oui, c'est ça, c'est le maximum.
C'est le maximum. Mais là, ce versant sud, très protégé, font que les moines avaient ces cultures d'olivier, évidemment des cultures adaptées. Ces oliviers avaient gelé en 56. Et nous, on les a retrouvés, mais alors sous un amas de ronces, on les voyait même plus sous les ronces, ouais. Tellement ils étaient ensevelis. Ils ont repris une deuxième vie.
Avec cette couleur vert argenté, délicieuse.
Et c'est que l'olivier, quand il y a des orages, ce qui sera peut-être le cas demain d'ailleurs, eh bien, on sait que la pluie va arriver avec un olivier. Parce que quand la pluie arrive, ses feuilles se tournent. Et il prend une couleur complètement argentée, puisque sur la face inférieure des feuilles de l'olivier, il y a des petits réceptacles pour aller chercher l'eau qui arrive. Comme les pluies d'orage sont très violentes, elles n'ont pas le temps de pénétrer dans les sols, l'olivier sait qu'il n'aura pas le temps de les capter, alors il va en capter un maximum par les feuilles, ce qui fait qu'après il peut tenir des semaines sans eau.
Jean-Yves, nous sommes sur le petit promontoire au rocheux avec ses boulinettes, et puis nous avons des rochers qui ont été creusés.
Oui, creusés par les peuples celto-ligures qui ont été très présents dans toute cette région aussi de Haute-Provence. Et ils ont marqué ce rocher par des encoches qui sont exactement positionnées au coucher du soleil, des quatre moments importants de l'année qui étaient les fêtes solaires, les deux solstices et les deux équinoxes. Donc c'était un point de repère avec un bassin rituel ici sur le rocher qui était le point d'observation. Oui. Que nous avons nous repositionné parce que la Terre se décale avec le temps et cette dépréciation des équinoxes a repositionné le point d'observation là où on a dressé ce menhir. C'est un cadeau d'un visiteur, cette belle pierre qui vient du désert de Mauritanie, un collectionneur. Et voilà, on lui a trouvé une place et c'est le centre de cette horloge annuelle. Et donc traditionnellement, on a repris ces fêtes solaires avec de la musique. Ici, on fait les quatre saisons de Val Sainte. À chaque solstice, à chaque équinoxe, il y a un concert musical et on vient voir le coucher du soleil ici, voilà, sans plus de rituel.
Et respirer les roses, et telle l'abeille de base, respirer aussi le lavandin si on est évidemment plus en plaine, mais la lavande fine aussi, l'aspic, et là c'est un véritable régal. Nous étions, et je vous convie vraiment à rencontrer Jean-Yves Ménien dans son jardin de Val-Sainte, pas loin de Simiane-la-Rotonde, et vraiment vous ne le regretterez pas, c'était notre page nature.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessou sur France Inter.
Et dans quelques instants, on va tourner notre page. Là, ça va être des sujets un peu plus qui fâchent. On va parler du loup et vous allez comprendre pourquoi. Et puis nous aurons aussi Alain Bougrain-Dubourg en ligne. Elle, vous la connaissez. Elle va chanter là. Je pense qu'elle prend son temps, mais c'est normal. Elle va pas tarder à arriver normalement. Elle doit s'appeler Césaria. Bon, le reste, vous connaissez.
Nasceu um boi, uma estrela que canta brilhar. E na mar, boi, uma areia que canta moiar. Espanhol nesse mundo fora, só rote mar. Teve pouco cheio de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra sal, cheio de amor. Tem batuque, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar, terra pouco cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra pouco cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit. Je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup.
Césaria et Vora, actualité et maintenant. Écoutez ce son, c'était Christian Estrosi, nous étions le 10 août 2015 et vous allez comprendre pourquoi.
Bonjour Denis, c'est Nicolas Blin de Reforest Action. Reforest Action lance aujourd'hui un appel national en direction des entreprises pour financer des projets de reboisement en lien avec des forêts qui ont été incendiées cet été. Il faut savoir que chaque année en France, 30 000 hectares de forêt partent en fumée sous l'assaut des flammes, c'est pas rien. 30 000 hectares, pour vous donner un ordre d'idée, c'est le département du Val-de-Marne tout entier, plus la moitié de Paris. Concrètement, ce qu'on propose, c'est d'inviter les entreprises à financer des projets de reboisement en France, au plus proche de chez elles, dans leur région, et de mobiliser leurs collaborateurs et leurs clients pour vivre une expérience concrète et récréative de team building sur le terrain. Invitez vos clients, invitez vos collaborateurs. Ensemble, on va prendre les pioches, on va mettre des arbres en terre pour restaurer les écosystèmes et réintroduire de la biodiversité là où elle a reculé. Si vous souhaitez agir très concrètement avec Reforest Action, une seule adresse, www.reforestaction.com.
Bon, alors vous l'avez compris, hein, c'était pas exactement ça. Ça va venir, ça va venir. Là, c'était bien sûr le répondeur. 01 56 40 40 35. Bah oui, nous aussi, il faut qu'on mette la mécanique en place tout à fait tranquillement. Donc vous n'hésitez pas. 01 56 40 40 35. Et tenez, un autre message.
Bonjour à toute l'équipe de CO2 Mon Amour. Voilà, je suis dans Vaucluse, je suis en face du Mont Ventoux et je fais ma grande balade quotidienne et solitaire dans la nature. Et puis aujourd'hui, ben voilà, c'est 4 de mur, avec le soleil qui darde sur la peau. Il a beaucoup plu hier soir et la nature est magnifique, lavée de ses poussières d'été, c'est extraordinaire. Voilà, j'ai les doigts un petit peu violets, peut-être un petit peu la langue aussi. Et puis je voulais partager ce petit moment tout simple, tout simple, tout simple. Mais quel bonheur, c'est trop bon, j'adore. Je vous fais des grosses bises et puis revenez vite nous mettre de l'oxygène dans les oreilles. Ciao.
Merci à vous. Donc vous n'hésitez pas, hein, vos humeurs, vos messages, vos coups de gueule, vos coups de cœur, vos initiatives, vos manifestations, 01 56 40 40 35. Les voici, me semble-t-il, les loups.
Je suis en droit de vous expulser.
Elle va pas se taire, cette grosse conne. Vous voulez que je vous montre comment on tire la chasse, nous, ici? Avec un seau, oui, madame.
L'info?
Sans parler de la chasse d'eau, nous avons l'antenne de télévision qui marche pas d'eau chaude, et j'en passe. Y'a donc un escroquerie.
L'info, oui, mais qui dérange.
Info qui dérange, je vous le disais, donc sur la chaîne Haut Alpine, donc des Hautes Alpes qui s'appellent d'ici, qui font un très très bon boulot, il y a eu cette déclaration donc de Christian Estrosi, c'était le 10 août dernier.
Je dis, il y a des apprentis sorciers qui ne veulent plus de la présence de l'homme en montagne. Aujourd'hui, le loup n'est plus une espèce en voie d'expansion, mais une espèce en voie de prolifération. La convention de Berne qui les protège est une escroquerie. Je le dis, j'ai été président d'une commission d'enquête qui a déterminé en 2003 que le loup n'était pas revenu naturellement du parc des Abruzzes. Il a été placé artificiellement, de manière anonyme, par des gardes du parc national du Mercantour, sous l'autorité de Madame Ségolène Royal, qui était déjà ministre de l'Environnement en 1992 et qui aujourd'hui fait semblant de dire qu'elle est prête à prendre des mesures alors que c'est elle-même qui a validé son introduction en 1992 dans le vallon de Molière, dans ma propre circonscription, dans les Alpes-Maritimes. Eh bien, nous nous battrons avec une équipe de juristes spécialisés pour faire entendre aux instances européennes que nous devons être déclassifiés de la Convention de Berne et que nous devons revenir à une population de loups qui préserve les territoires qui sont consacrés à l'élevage.
Sujet polémique, on s'en doute bien. Donc, affirmation lourde, hein, avec une accusation directe. Les gardes du parc national du Mercantour ont réintroduit les loups en France à l'automne 1992, dixit Christian Estrosi. Alors, normalement, une réponse du directeur du parc national aurait été la bienvenue. J'ai donc contacté Alain Brandès, qui est le directeur du parc, qui ne souhaite pas répondre en me disant que Monsieur Estrosi est en campagne régionale. Bon, ça pourrait laisser entendre que durant une campagne élective, on peut affirmer n'importe quoi sans réagir. Alors, faut bien reconnaître aussi que directeur du parc du Mercantour, le job est pas facile. En général, on y va plutôt avec un gilet pare-balles, hein. C'est pas simple. Donc, ce ne sera pas la réponse officielle souhaitée que vous entendrez, mais celle de Vincent Vignon, écologue, travaillant depuis 30 ans sur le loup. Alors, bonjour Vincent Vignon, quelle est votre réaction?
Bonjour Denis. Eh bien, des loups qui recolonisent des anciens territoires, on le voit dans le monde entier, et depuis même un peu plus de 30 ans. Au début des années 90, c'était une déferlante au Kazakhstan, en Russie. Chez nous, nous l'avions dans les mêmes années, mais pas qu'en France. avait commencé avant sur le nord de l'Italie, débordant en Suisse. On a eu aussi des retours très importants en Espagne qui se sont faits dans des sites où ça a fait moins de bruit chez nous. Mais plus récemment, la progression continue. Elle ne s'est pas faite il y a 20 ans et commencée il y a 30. Elle se fait en Allemagne. Ici, on regarde les loups de l'Est qui progressent à grande vitesse en pleine, alors que nos meutes sont pratiquement toutes dans des territoires difficiles d'accès, notamment les zones de reproduction. En Allemagne, tout ça, ça se passe dans des forêts de plaine. Et ces animaux, ils n'arrivent pas très loin de la Belgique, pas très loin du nord-est de la France. Donc on peut aussi, un jour, avoir une arrivée de loups, cette fois-ci d'origine d'Europe centrale. En France, ça pourrait arriver. Pour le moment, tout ce qui est en France a été, d'après les généticiens, formalisé comme, enfin vérifié comme italien. On n'a encore pas un loup espagnol, on pourrait aussi en avoir, ça va arriver un jour ou l'autre. Donc bien sûr que ces mouvements de colonisation sont des mouvements naturels, qu'ils sont assez communs dans le monde et que le loup, pour cela, est probablement la meilleure espèce terrestre en capacité de dispersion au sol, traversant des paysages absolument incroyables et des difficultés incroyables. Oui. Et ça, on n'en a pas l'apanage mondial.
Oui, c'est vrai qu'il est capable de traverser aussi bien, on va dire, un fleuve, de traverser une ligne TGV, de traverser des autoroutes. Enfin, en tout cas, c'est assez étonnant comme faculté d'adaptation. Mais ça veut donc dire que ce ne sont pas, d'après vous, donc des gardes du parc national du Mercantour qui ont réintroduit en 1992 ces fameux loups.
Non seulement ça ne l'est pas, mais quand on suit les loups maintenant avec un arsenal génétique et d'autres procédés de terrain, on s'aperçoit que des mouvements de colonisation de très grande ampleur continuent à se réaliser. Donc ça voudrait par exemple dire qu'on manipule tout, mais non, on le suit parfaitement. On a même, pour donner un exemple de ce qui s'est passé en France, on a quand même une louve qui, connue dans le Mercantour, est allé passer quelque temps dans l'est des Pyrénées et revenu dans le Mercantour.
Ah, quand même,
quand
oui.
Même deux fois la traversée de la vallée du Rhône.
Oui, elle est venue faire du tourisme. Elle était cascadeuse, quoi, celle-là. Donc c'était pas, elle était intrépide, on va dire. Hein. Donc
ces simples données montrent que c'est aberrant de dire qu'on a été apporté des loups, même si nous l'avions fait. Et d'ailleurs, en Amérique du Nord, ça a été fait. Il a été réintroduit dans Yellowstone juste avant qu'il revienne naturellement. Tout ça pour dire que de toute façon, les mouvements de recolonisation, ils se font absolument partout et on n'y échappe pas.
Et si d'ailleurs, on l'a réintroduit dans le Yellowstone, c'était aussi pour réguler les différentes espèces, hein, c'était ça.
C'était pour corriger ouais. Le fait que le loup avait été éliminé volontairement dans le début du XXe siècle, créant en cascade des réactions écologiques très importantes, parce qu'il y avait eu évidemment prolifération des cerfs-wapitis et puis l'élan. Donc on avait toutes les répisylves qui avaient été ratiboisées par ces animaux-là, ce qui avait des conséquences très importantes sur tous les systèmes hydrauliques.
Merci à vous, Vincent Vignon. Je vous rappelle, donc, écologue travaillant sur le loup depuis une trentaine d'années. Alors bien sûr, les problèmes avec les loups, on ne va pas du tout les minimiser. Vous avez eu plein d'attaques encore cet été dans les Hautes-Alpes, dans le Mercantour. Il ne s'agit pas de nier une seconde dans cette émission, loin de là. Mais donc ça va être intéressant aussi, parce que là, en fait, on a une actualité. Cher Alain Bougrain-Dubourg, bonjour.
Bonjour.
Alors Alain, vous êtes bien sûr le président de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. Et c'est à ce titre aussi que vous intervenez, parce que là, d'accord, les oiseaux, mais vous intervenez aussi sur d'autres sujets. Et on est en pleine actualité aussi avec le loup, Alain.
Oui, la LPO s'élargissant dans son action à l'ensemble de la biodiversité. D'abord, je suis effondré par les propos d'Estrosi. Là, pour le coup, il fallait oser. Alors, je sais qu'en politique, on ose beaucoup,
oui,
mais à ce point-là, bon, lancer une rumeur, il en restera toujours quelque chose.
Toujours.
Bon, on va tourner
mais la
page.
Mais ça s'adresse en plus à un public qui est déjà convaincu. Hein,
oui, bien sûr. Mais enfin, l'ensemble des Français entend ce genre de propos, donc ça génère un malaise, on n'a pas besoin de ça. On a besoin, comme ça vient d'être dit, à l'égard du loup, de travailler de concert avec les bergers pour essayer de gérer au mieux la cohabitation. Alors quand je vois qu'en ce moment, on est en pleine loi sur la biodiversité, qui au passage est repoussée tranquillement, et qu'on nous explique que la France doit être exemplaire en matière de préservation du vivant, et que dans le même temps, M. Le Foll et Mme Royal veulent déclasser le loup comme espèce protégée auprès de la Convention de Berne et de l'Union européenne, sans concertation avec les associations de protection de la nature. Je trouve ça surréaliste. Il y a un double discours. Mmh. Un discours qui est admirable, y compris en Afrique, devant les éléphants, les rhinocéros, où il faut...
Ah bah non, on est très bon là. Ah oui,
voilà.
oui.
Et puis sur le terrain, ben on constate que la réalité pratique, ben elle est très différente. C'est-à-dire qu'on dézingue à tout va et les équipes de la LPO, notamment avec d'autres associations, étaient jeudi dernier dans les Landes.
Là, on va cliquer sur le braconnage du Bruant Ortelan dans les Landes, qui est une affaire quand même qui date depuis quoi
99. Ah oui, quand même. Voilà, au moins 99. Mais l'Ortolan était protégé avant. Bon. Et chaque année, ben, 30 000 ortolans, vous savez que c'est le moment de la migration, c'est-à-dire que les oiseaux passent par les Landes pour faire des réserves, notamment avant de traverser les Pyrénées, etc., et d'aller se répandre en Afrique. Ben voilà, des petits oiseaux qui pèsent une vingtaine de grammes.
Mais ils pèsent quand même pas loin de 150 euros après engraissement entre la mi-août et la mi-septembre.
Et alors pour ça, il faut les capturer. C'est-à-dire que malgré l'interdiction, ben on a pu, depuis jeudi, hier encore et ce matin, voir qu'il y avait des matholes qui sont des cache-pièges, on va dire, qui sont disposés un peu partout et qui sont en activité. Voilà, moi j'ai envoyé un courrier au Premier ministre, à Ségolène Royal, etc. Pas de nouveau. On voit que tout continue et qu'il y a une tolérance. Alors je dois dire quand même que cette année, on a évidemment saisi des oiseaux, on a été porté plainte auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, avec CAPS, l'autre association, et là, on est tombé en face de gens, je dois le dire, admirables, qui en ont ras le bol, les gardes de l'ONCFS, qu'on leur dise de garder le couvercle sur la marmite.
C'est ça.
Et qui ont été extrêmement réactifs. Et actuellement, ben, on ratisse large, semble-t-il, la garderie en tout cas, et la LPO et CAPS aussi, dans les Landes pour essayer de mettre un terme à cette activité. On lance également une pétition, mettons fin au massacre des oiseaux.
Alors ça, on la retrouve sur le site de CO de Mon Amour. On l'a mise, Alain. On vous retrouve très bientôt d'ailleurs sur France Inter. On est ravis, on va vous retrouver avec une
séquence.
C'est ça, donc le dimanche à 8h moins 5, ça doit être ça.
Ouais,
c'est parfait. Merci cher Alain,
merci beaucoup,
à très vite.
Enfin.
Allez, au revoir. Encore un disque. Ah oui, c'est bien ça. Chant fort sur France Inter.
Ensemble on va au cinéma et on dîne au restaurant. Ensemble on se promène au bois avec le chien et les enfants. Et jour après jour nous vivons ensemble une histoire d'amour, du moins ça y ressemble. Mais pour qui comprend un peu le verlan, quand on dit ensemble, on devrait dire semblant. Et jour après jour, nous vivons ensemble une histoire d'amour, du moins ça y ressemble. Mais pour qui comprend un peu le verlan, quand on dit ensemble, on devrait dire semblant.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessou.
Le titre de la chanson de Chanfort, c'était Ensemble. Donc Ensemble, bah oui, c'est CO2 Mon Amour aussi, donc avec le tweet Chessou, avec le répondeur 01 56 40 40 35, et puis aussi, bien sûr, vos réactions sur le site CO2 Mon Amour, franceinter.fr. Vous en avez l'habitude, vous discutez entre vous, c'est formidable. Alors, là aussi, dernier petit sujet qui va nous faire beaucoup de bien, parce que ça va être le portrait et le parcours d'un jeune qui s'est cherché, qui s'appelle Maxime Lyonnais, et qui qui est un garçon qui adore les plantes. Alors la parole de jeune, n'hésitez pas non plus hein, vraiment à me contacter par mail, par téléphone, etc. Votre expérience, nous, ça nous intéresse bien, ce que vous faites vous aussi en tant que jeune. On a vraiment envie de mettre vraiment cela à l'antenne. Ce garçon, Maxime Lyonnais, avait des parents avec un jardin, un papa dans les parcs et jardins. Et puis au moment de la troisième, il y a eu trois souhaits à faire. Alors c'était soit ornitho, soit boulanger, soit dit donner du pain aux oiseaux, ça peut le faire. Et puis parquet jardin. Alors c'est ce qu'il a fait. Il a fait un lycée horticole, il a fait un CAP, après un BEP, puis après il s'est dit bon, qu'est-ce que je vais faire vraiment? Deux ans de réflexion, pas d'école. Il côtoie le club nature de Bailleul dans le Nord. Il apprend toutes les plantes de sa région par cœur, mais pas seulement par cœur. Il les connaît. Il fait de l'intérim pour gagner un peu sa vie. Il est repéré par le centre phytosociologique de Bailleul. Il est contacté pour un stage et là, il dresse un inventaire des plantes présumées disparues. Voilà où on en est. Et maintenant, Maxime, la suite.
J'ai 24 ans et donc à 24 ans, je suis un peu plus haut que mes camarades de classe, mais je garde la foi et je vais dans cette lancée-là. J'attaque donc avec la présentation de la gestion différenciée. Donc là, je prends le côté nature et aussi le côté horticole.
Alors, on rappelle aux amis, beaucoup sont au courant de la gestion différenciée, mais on évite les pesticides a priori, hein,
voilà,
c'est ça.
Oui.
Et donc on travaille aussi, alors un peu en fonction des saisons, en fonction des périodes de fauche.
Voilà, en fonction aussi notamment des essences locales, voilà. C'est ce qui me plaisait réellement, les connaissant avec mes envies de les apprendre, et du coup le fait de dire que simplement on peut aller en campagne, il y a des plantes sur les bords des chemins, c'est les mêmes plantes qu'on nous vend en horticulture, alors qu'elles sont là, c'est naturellement gratuit en plus. Ça m'a plu.
Alors vous le faites pour qui, ça, cette gestion différenciée donc
Alors, je le fais pour moi, personnellement, pour remettre un peu des insectes un peu partout. Donc, c'est aussi des livres, des bouquins sur la rareté. Il existe maintenant une rareté. Donc, pour préserver cette rareté, autant remettre la nature aussi dans les jardins. Et donc, de là, le centre phytosociologique m'accueille. J'apprends encore plus de plantes avec eux. Et je fais ce rapport, je réussis bien ce rapport. Et là, maintenant, c'est une proposition d'aller en bac pro chez eux. Mmh. Et donc, de là, je retourne voir les gardes départementaux du parc Marguerite-sur-Senart dans les Monts de Flandre. Oui. Je leur explique un peu que voilà, je veux, parce que je les ai aussi un peu poussés à préserver ces plantes-là retrouvées. Et ils ont vu en moi quelqu'un qui pouvait faire l'affaire, on va dire.
Ah oui.
Donc là, j'ai donné ma candidature au Conseil Général du Nord. Et donc j'ai été retenu. Et donc j'ai fait 2 ans d'apprentissage au Conseil Général du Nord avec, là, cette fois-ci, un projet beaucoup plus poussé par rapport à simplement sauver des plantes. Là, c'était mettre en place une culture complète sur un terrain. Donc, mon rapport de stage, c'était la mise en place d'un système d'agro-silvopastoralisme. Remettre l'arbre au centre, la culture d'un côté
et
l'animal de l'autre, et faire de la rotation, repratiquer la jachère, remettre des haies, refaire du bocage. Donc, tout ça qui a fait aboutir sur un rapport donc réussi et une embauche derrière. Maintenant, je suis donc sur le secteur de Lille. Donc voilà, en gros, c'est 3 grandes missions qu'on a au sein du département qui me plaisent. C'est la première, donc c'est celle qui appartient au département, c'est l'acquisition de terrain via une taxe, la taxe qui est prélevée sur les permis de construire, pour pallier au fait qu'on construit partout, 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 et après on n'a plus de nature. Donc là, déjà c'est bien, on peut sauver, on a une pression juridique, foncière, pour pouvoir acheter des terrains. Et ensuite, ces terrains, deuxième vocation, c'est l'ouverture au public. Donc là, l'aménagement, c'est là où on a un rôle aussi, nous, en tant que garde, c'est pour vraiment mettre en place les cheminements, alors pas n'importe où, pas forcément ouvrir les sites aussi sur la seule plante rare ou le seul animal rare aussi. Et donc le troisième point, c'est la gestion de ces milieux-là. Forcément, ils évoluent et donc là, il n'y a pas photo, il faut aussi pouvoir intervenir. Et après, avec mon système d'agro-silvopastoralisme, là, par contre, on va rentrer quelqu'un dans le site. On va pouvoir mettre à disposition des terrains pour des éleveurs, des agriculteurs, faire du local, et ça me botte énormément. Tout simplement, en fait, c'est venu de la réalisation de ce bassin. Dans ce petit jardin de 150 mètres carrés, il y a 3000 plantes. 3000 plantes. Il y a eu deux bassins, il y a quasiment tout. Il y a un petit poulailler pour mes parents aussi. Donc ce goût des plantes, c'est venu donc de une pelouse, un bassin, un nénuphar pour maman, parce que maman voulait un nénuphar. Et puis bah, d'un seul coup, il n'y a pas eu qu'un nénuphar. Hein. Il y a eu, je me rappelle, c'est la cardamine hérissée qui est arrivée sur les bords. Et d'un seul coup, c'était la cardamine des prés, deux cardamines différentes. Et puis du coup, bah, je suis sorti de chez moi, juste à côté, donc on habite un quartier, et du coup il y a des espaces verts, et dans ces espaces verts, il y a aussi des plantes, mais souvent au ras des clôtures, hein, c'est tellement tendu. Et donc il reste encore des fleurs. Puis là, bah, je regarde ces fleurs, c'est quoi, et puis je commence à toutes les apprendre. Et je sors même de mon quartier et je vais en campagne. Et là, c'est pareil, je retrouve encore des plantes, et puis il y en a vraiment plein, je commence à bien les connaître, ça devient tellement banal que bon, je continue, mais maintenant, il faut aller beaucoup plus loin. Bon, j'ai une mobylette, du coup, je peux aller un peu plus loin. Habitant dans les Flandres, à Bailleul notamment, on a un contexte géologique un peu particulier, où on est sur des buttes témoins, des buttes de sable, et dessus, on a voilà, donc différents types de plantes. Et puis, c'est aussi un jour... juste à côté de chez mes parents, la découverte d'une prairie à orchidées, encore une prairie à orchidées sur Bailleul. Tout l'intérêt vient sur la rareté, il y a des niveaux de rareté. Et en plus, c'est simplement, j'habite Bailleul, je commence à apprendre les plantes, j'apprends les plantes, et d'un seul coup, 3-4 ans après que j'ai commencé, j'apprends qu'il y a un centre phytosociologique sur Bailleul. Comment on se projette, ça vient d'un livre. Un livre que je remercierai d'ailleurs un pote de me rendre un jour, ce serait cool. C'est « Comment vivre autrefois ». Donc c'est un monsieur, alors justement je ne me rappelle plus de cette histoire-là, mais je sais un truc, c'est que ce personnage-là a fait beaucoup d'études. Il est parti en Afrique, 30 ans, il a vécu là-bas, et il s'est aperçu que sur 2,5 hectares, on pouvait avoir de tout. L'arbre, l'animal, le sol, la pâture, les haies, les cultures, les animaux, la viande, les animaux, il y a de tout, il y a le lait, le fromage.
Donc un écosystème à la fois complet, qui ne se détruit pas et qui permet donc une autosuffisance.
Tout simplement revenir avec des pratiques aussi qu'on a oubliées aujourd'hui. Hein. Savoir qu'en France, autrefois, on est tous issus à 4 générations en moyenne
d'agriculteurs.
Donc déjà, rien que là, on a cette fibre en nous. Juste l'étincelle. Et cette étincelle-là, pour la provoquer, maintenant, c'est des barrières plus ou moins liées à l'argent. C'est ça qui est un peu dommage. Hein. On aimerait tous avoir un terrain. Maintenant, c'est très difficile d'avoir un terrain. Mais bon, un petit rêve comme ça...
Oui, mais vous, c'est pas un terrain pour faire du loisir.
C'est en gros, cette forme de loisir-là, on peut la voir comme justement une invitation. Lors de la récolte, ça m'embêterait d'être tout seul à récolter. Alors que si j'appelle tout le petit village, on fait la même récolte tous ensemble.
On est dans le partage.
On est dans le partage, tout simplement, voilà. Donc 6 mois avec mes 2,5 hectares, et un voisin, et un autre voisin, et un autre voisin, on fait de la polyculture associée. On peut laisser des friches pendant qu'il y a encore la nature, donc... Et que juste à côté, on a un verger qui est soit cultivé en dessous, soit mis en pâturage, ou laissé en jachère quelques années. On restaure, on rénove, on a notre petit bocage, donc ces petites haies-là qui vont aussi nous servir. Elles ont un rôle essentiel pour beaucoup de choses. En septembre, on va adorer aller chercher...
Les murs.
Les murs, voilà, les murs en septembre. Le pire, c'est que c'est gratuit. On plante une graine, on peut en récolter 10. Jamais on nous dira ça. On nous le dira jamais.
Et il est pas mal ce garçon, Maxime Lyonnais. Voilà, donc n'hésitez pas vous aussi à vos témoignages. Nous sommes tout à fait preneurs. Merci à Sacha Trop et Maxime Ingrand, la technique, à Claire Destacan, notre assistante, à Xavier Pessugia qui réalisait l'émission, Albert Houck, Thierry Dupin, les disques, Anne Gouzon qui nourrit les sites, 01 56 40 40 35, vous en avez l'habitude. Et puis la tue du monde, petit loup, ça vous dit quelque chose? Eh ben oui, ben ce sera donc demain à 19h54 après les petits bateaux.